France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 au cœur d'une usine, vous l'entendez, nous sommes chez Duralex à la Chapelle Saint-Mémin près d'Orléans. La célèbre marque de verre fête ses 80 ans en 2025, mais elle a failli disparaître l'an dernier avant d'être reprise par ses salariés.
Ça donne beaucoup d'espoir et on voit que notre projet est viable.
Depuis, un élan de solidarité s'est créé, les ventes ont bondi ces derniers mois.
C'est solide, il faut sauver la boîte, envers et contre tout. Ah, c'est pas vrai.
Alors la volonté est là, des salariés, des clients, des collectivités locales. Mais suffira-t-elle? Que nous dit le cas de Duralex de la fragilité de l'industrie française? Comment lui donner les moyens de sauver et de créer des emplois dans un contexte politique plus instable que jamais? Voilà les questions que nous nous posons ici aujourd'hui sur le terrain. Sans oublier toute l'actualité de ce jeudi 16 janvier, c'est avec vous Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Actualité dominée par l'accord de cessez-le-feu au Proche-Orient.
Ce cessez-le-feu est-il en train de s'éloigner? Israël, qui n'a pas encore entériné l'accord, accuse le Hamas de remettre en cause certains points, ce que le Hamas récuse. Nous serons à Jérusalem. La guerre continue pendant ce temps-là dans la bande de Gaza. 73 morts sur les dernières 24 heures dans un paysage dévasté. Témoignage à suivre, tandis que les familles des otages vivent une attente fébrile. Le compte y sera-t-il pour le PS? La motion de censure contre François Bayrou sera examinée cet après-midi et le parti est plus déchiré que jamais. Le compte est bon, la facture d'électricité va baisser de 15% au 1er février pour les usagers au tarif réglementé. Toutes les figures de l'extrême droite ce matin au Val-de-Grâce à Paris pour un dernier hommage à Jean-Marie Le Pen. Et puis l'eau du robinet polluée, une substance cancérigène est présente dans les canalisations en plastique installées dans les années 70.
Et juste avant 14h, clin d'œil au club de BMX de la Chapelle, l'un des plus importants de France ici. La vague JO se fait toujours sentir. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est au cœur de cette usine Duralex que je vous propose de débuter ce 13-14. La matière première vient d'être fondue à près de 1400 degrés dans un four énorme qui est juste au-dessus de moi. Cette matière s'écoule ensuite dans 5 canaux. Il fait très chaud ici. Et ce verre en fusion arrive devant moi pour être moulé. On voit des flammes qui sortent des moules, 50 moules, dont on trouve ensuite le numéro au fond des verres donc numérotés de 1 à 50. Je me trouve actuellement dans une cabine qui atténue les bruits. Je vais ouvrir la porte pour vous donner une idée de l'ambiance sonore. Lunettes et bouchons d'oreilles obligatoires, évidemment. Vous connaissez les verres Picardie, les verres Gigogne de Duralex. En ce moment, ce sont des verres Lola qui sortent des moules à 700 degrés, 112 verres par minute qui seront ensuite refroidis brutalement pour donner le verre trempé, si résistant, si solide et qui fait la réputation de la marque. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à en avoir dans vos placards, mais tout cela aurait pu s'arrêter. Aujourd'hui, ce sont les ouvriers qui sont autour de moi, qui sont les propriétaires de cet outil. Ils ont repris leur entreprise dans une SCOP il y a 6 mois, lancé de nouveaux modèles, trouvé de nouveaux débouchés. Cela va-t-il suffire? C'est la grande question qu'on se pose ici. On va vous expliquer ce pari fou dans ce 13-14. Paris qui est aussi le symbole de cette industrie française menacée et qui se bat pour ne pas disparaître. Nous allons en parler dans quelques minutes avec l'homme qui incarne ce combat ici, François Marciano, le directeur général de Duralex, avec nos nombreux invités. Également, ce sera dans une vingtaine de minutes. Avant cela, Christelle Robière, avec vous, toute l'actualité a commencé donc par cette question. Va-t-on vers la fin de la guerre entre Israël et le Hamas?
Effectivement, la prudence est de mise. L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza avec un échange otage contre prisonniers est toujours fragile. L'accord annoncé par les médiateurs qataris, égyptiens et américains doit encore être validé par le gouvernement israélien. Or, ce matin, les autorités israéliennes accusent le Hamas de provoquer une crise de dernière minute en revenant sur certains points de cet accord. Des accusations sans fondement, selon le Hamas. Alors, on va essayer d'y voir clair. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Thibault, qu'est-ce qui bloque?
Eh bien, ce nouveau contentieux sur les termes de l'accord, c'est le troisième, Christelle, depuis l'annonce d'hier soir. Et à chaque fois, c'est à l'initiative d'Israël. Eh bien, ce matin, c'est le Premier ministre en personne, Benjamin Netanyahou, qui accuse directement le Hamas d'avoir modifié le texte. L'organisation islamiste dément. Et les médiateurs sont donc de nouveau à pied d'œuvre pour essayer de débloquer la situation. Benjamin Netanyahou n'a pour le moment jamais confirmé avoir validé l'accord. Et surtout, il a différé la convocation du cabinet cabinet de sécurité et de sa quinzaine de ministres qui devaient se réunir ce matin pour décider à la majorité simple de valider ou non le texte. C'est un passage obligé en Israël avant de pouvoir commencer à penser aux modalités d'application de la trêve. Eh bien donc, nous n'y sommes pas. En fait, ce qu'il se passe en coulisses, c'est que Benjamin Netanyahou semble gagner du temps et jouer avec les nerfs des familles d'otages pour essayer de convaincre ses alliés d'extrême droite farouchement opposés à l'accord de ne pas quitter le navire et donc de lui permettre de conserver le pouvoir.
Oui, c'est ça, Thibault. Benjamin Netanyahou est en plein dilemme en fait.
Ah oui, un dilemme cornélien, c'est le pouvoir ou la vie des otages. Et le pouvoir pour Netanyahou, ça signifie la liberté, puisqu'il risque de la prison ferme dans des affaires de corruption sérieuse. Il doit par ailleurs comparaître dans 5 jours devant le tribunal. Il y a donc ce midi 2 options pour lui. La première, il refuse l'accord, il satisfait alors son extrême droite, conserve sa coalition et se protège un peu plus longtemps d'une accélération du calendrier judiciaire. Option 2, il accepte. Et là, il perd à plus ou moins brève échéance sa majorité et ne bénéficie alors plus du parapluie du pouvoir. C'est une tragédie grecque, c'est un dilemme cornélien, je vous disais. La comparaison avec le théâtre s'arrête là parce que je vous rappelle qu'il y a en jeu la vie de milliers de Palestiniens à Gaza et de 98 otages toujours aux mains du Hamas.
Oui, et pour l'instant, comme depuis 15 mois, c'est toujours la guerre. La défense civile de la bande de Gaza annonce la mort de 73 personnes, dont la moitié de femmes et d'enfants ce matin. Son porte-parole évoque même une forte intensification des bombardements sur Gazaville et Ran Younes. Les Gazaouis sont à bout, Étienne Monin.
Depuis hier soir, sur les réseaux sociaux, on voit toujours circuler ces vidéos d'hommes dans la nuit, recouverts de poussière au milieu des décombres qui portent dans leurs bras des enfants inanimés. Les tirs de joie ont laissé place à la douleur à Gaza. La guerre est toujours présente. Hier, Youssef a encore perdu un ami. Il est joint par WhatsApp par Thibault Lefebvre.
J'ai perdu mon meilleur ami. Ils l'ont frappé dans sa voiture. J'en peux plus, Thibaut, j'en peux plus, là. C'était prévu qu'on va fêter ça ensemble. Le cessez-le-feu. J'en peux plus, Thibaut, j'en peux plus.
Pour les Gazaouis, ce moment entre l'annonce de la trêve et l'arrêt des bombardements est éprouvant. Le journaliste gazaoui Rami Abou Jamous s'attend encore à des frappés des morts. Il a l'expérience de plusieurs guerres à Gaza.
Israël a bombardé la joie des Palestiniens et des Gazaouis. Tout le monde ici, ils étaient contents, ils sont sortis dans les rues, mais ça n'a pas duré longtemps malheureusement pour dire que c'est pas encore fini. Il y a 3 jours et dans ces 3 jours, ça va être les pires des 3 jours. Ces 3 jours vont passer comme 3 ans.
Et à Gaza, les trêves sont aussi fragiles. La confiance est quasiment inexistante entre les deux camps.
Merci Étienne. Thibault Lefebvre, je reviens vers vous, toujours en direct de Jérusalem. Vous vous êtes rendu la semaine dernière dans la bande de Gaza, plus précisément au nord, dans la ville de Jabalia, le territoire le plus ravagé par les bombardements. À quoi ressemble-t-il ?
Oui, c'était une mission de 2 heures environ, organisée par l'armée israélienne, sous étroite surveillance. Donc, le nord de Gaza est en état de siège depuis l'offensive sur les villes de Beit Hanoun, de Beit Laya et donc de Jabalia depuis le 6 octobre. Des milliers de civils ont été contraints de partir vers le sud. Et il reste, en fait, dans cette zone des chiens errants qui cherchent de la nourriture au milieu des ruines. 70 à 80% des bâtiments sont à terre. Il n'y a plus une route praticable. Des soldats israéliens patrouillent à pied ou dans des tanks sur des chemins sablonneux. Et c'est d'ailleurs difficile d'imaginer que, comme le prévoit d'ailleurs l'accord, des milliers de déplacés palestiniens puissent revenir dans les prochains jours sur ce territoire dévasté. On entendait aussi de Jabalia des détonations et des tirs d'armes automatiques vers le sud, vers la ville de Gaza, témoignant de combats très intenses. Et puis, le jour de cette visite, comme je vous le disais, très encadrée, 3 soldats israéliens sont morts dans l'explosion d'un IED, d'une mine, sous leur véhicule de transport de troupes. En fait, l'armée semble depuis plusieurs semaines enlisée dans une guerre de guérilla qu'elle n'arrive pas à endiguer. Les pertes sont importantes et c'est une des raisons qui explique pourquoi l'État hébreu est revenu à la table des négociations après avoir pendant des mois refusé un accord qui n'a en fait pas vraiment évolué depuis fin mai.
Merci Thibault. L'accord de cessez-le-feu, vous en parliez, s'il tient, prévoit plusieurs phases. Dès dimanche, 6 semaines de cessez-le-feu et la libération de 3 premiers otages. Farid Anouar, vous êtes en direct de Tel Aviv. Bonjour.
Bonjour.
Ils sont encore 94 aux mains du Hamas sur les 251 enlevés le 7 octobre 2023.
Oui, et sur ces 94 otages, 60 sont présumés vivants à ce jour. 34 ont déjà été déclarés morts par l'armée israélienne. Et parmi ceux qui seraient encore en vie, 53 sont des Israéliens, dont deux binationaux franco-israéliens. Il s'agit d'Ofer Calderon et de Ohad Yahalomi. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a indiqué ce matin qu'il n'y avait pas de certitude sur leur sort. Incertitude aussi concernant les 10 femmes captives, dont 5 soldates, ces guetteuses en première ligne quand les terroristes ont surgi de Gaza. On ne sait pas également si les deux petits-enfants, les frères Kfir et Ariel Bibas, les plus jeunes otages, sont toujours en vie ainsi que leur mère.
Et quels sont les termes de l'accord concernant justement les échanges entre les otages et les prisonniers palestiniens ?
Alors écoutez, on sait que lors de la première phase du cessez-le-feu, qui doit donc durer 6 semaines, 33 otages israéliens devraient être libérés. D'abord les femmes, les enfants et les plus de 50 ans, en échange d'un millier de prisonniers palestiniens, hommes, femmes et enfants. La liste n'est pas encore connue, mais cette nuit, le bureau du Premier ministre a publié un communiqué déclarant, je cite, qu'Israël dispose d'un droit de veto sur la libération de ses meurtriers de masse. Le texte indique également que le Hamas exige de dicter l'identité de ses meurtriers. Alors si la première phase tient, la deuxième devrait inclure, elle, la libération de tous les otages restants, y compris les soldats israéliens, puis pour finir, les défunts.
Farid Anouar en direct de Tel Aviv avec Benjamin Thuot. Sachez que la communauté internationale veut croire en cet accord de cessez-le-feu. Ce matin, la Russie, à son tour, espère, je cite, une stabilisation durable de la situation. L'Union européenne annonce 120 millions d'euros d'aide à Gaza. Sachez aussi que la Lufthansa va reprendre ses vols vers Tel Aviv le 1er février prochain. François Bayrou a-t-il convaincu ? Deux jours après sa déclaration de politique générale, le nouveau Premier ministre essuie sa première motion de censure cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il ne risque pas d'être renversé puisque le RN ne la votera pas, mais il aura un ordre d'idée de sa potentielle longévité. Que fera le PS ? C'est la question. Faute de suspendre la réforme des retraites, François Bayrou a multiplié les gages hier. Il y aura bien un texte soumis au Parlement, même si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord du tout. Et le gouvernement renonce aussi aux 4000 suppressions de postes d'enseignants. Cela va-t-il suffire ? Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
En direct de l'Assemblée, les élus socialistes viennent de réunir le bureau national du parti. Signe Laurence que l'heure est grave et le parti divisé.
Oui, le bureau national du PS convoqué, c'est le signe sans doute d'une consigne de vote collective pour ou contre censurer le gouvernement cet après-midi. Alors on élargit dans ce cas les débats au-delà du seul groupe des 66 députés socialistes. On interroge les fédérations censées représenter aussi la voix des militants. C'est le signe surtout d'un énorme blocage. Les tenants de la ligne stabilité donc, laisser sa chance à Bayrou, elle serait majoritaire au sein des députés et portée par les plus vieux. Parce qu'il y a vraiment dans l'appréciation de la situation une fracture générationnelle au PS. Si comme tout porte à le croire, les socialistes ne censureront pas d'entrer le gouvernement, ils ne vont pas manquer d'assurer que l'équipe Bayrou est sous leur épée de Damoclès, l'épée de Damoclès d'une censure cette fois sur le budget. Un détonant de la censure s'étrangle, ça n'est absolument pas cohérent. Au nom de la stabilité, on laisse les mains libres au gouvernement qui veut nous imposer une cure d'austérité plus importante encore que celle de Barnier et on lui couperait les ailes dans 3 semaines en créant là, pour le coup, un véritable chaos. Il conclut en langage châtié, on est vraiment dans la merdouille.
Laurence Perron, avec les moyens techniques de Selim Guerebi. Les élus du RN, eux, ont plutôt la tête ailleurs. Beaucoup ont assisté ce matin à Paris à la messe en hommage à Jean-Marie Le Pen dans l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. Une foule de plusieurs centaines de personnes. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Vous êtes sur place et toutes les chapelles, si j'ose dire, de l'extrême droite y étaient représentées.
Oui, au Val-de-Grâce ce matin, le RN d'aujourd'hui est le front d'hier. À l'intérieur de l'église, le clan Le Pen au grand complet, Jordan Bardella, l'allié Éric Ciotti, mais aussi Bruno Maigret, l'ancien félon. Et puis à l'extérieur, bloqués par le service de sécurité, les refoulés, ceux que le Rassemblement National ne voulait pas voir, vieux compagnons pourtant de Jean-Marie Le Pen, Yvan Benedetti, antisémite et négationniste, Jérôme Bourbon qui distribue ses exemplaires de Rivarol, ou Dieudonné, tout s'écarter de cette cérémonie, car pour le RN de Jean-Marie Le Pen ce matin ne doit rester que le positif. L'aumônier militaire d'abord vante sa carrière militaire.
Oui, monsieur Le Pen, vous étiez une forte tête. Vous avez une mauvaise réputation, mais vous avez eu aussi une âme de mousquetaire.
Puis Marie-Caroline, la fille voix étranglée, livre un éloge intimiste.
Il n'était pas un papa poule. Ce n'était pas vraiment la tradition dans les familles de marins, mais il a toujours été là, pour nous, ces filles, dans les coups durs de la vie, de manière indéfectible.
Quand Marion Maréchal, la petite fille, fait-elle de cette messe une tribune politique ?
Et Dadi, regarde, tu as réussi. Ton armée des sans-voix et des sans-grades s'est levée sur ton mot d'ordre. Soyez fiers d'être français. Ils ont fini par se souvenir qu'ils avaient quelque chose en eux à aimer et à défendre.
Marion Maréchal applaudit par la foule d'anonymes. La France hurle une femme, fendant le silence, le recueillement d'un RN d'aujourd'hui et d'un Front d'hier, réunis dans un même hommage qui, à l'instant, se termine.
Élodie Forêt avec Corentin Bailly. 15%, c'est le chiffre du jour, celui de la baisse des tarifs réglementés de l'électricité à partir du 1er février. 24 millions de ménages qui sont aux tarifs réglementés donc sont concernés. La Commission de régulation de l'énergie a donc tranché, Delphine Simon. Pour la première fois depuis 10 ans, les tarifs vont donc baisser. Alors, de combien et comment ?
Alors, deux cas de figure. Alors, premièrement, vous êtes abonné aux tarifs régulés, les fameux tarifs bleus d'EDF. L'économie peut atteindre 650 euros par an pour une famille qui chauffe sa maison et son eau à l'électricité. Pour ceux qui ont un abonnement heure pleine, heure creuse, la baisse sera d'environ 400 euros. Les petits consommateurs, eux, verront leur facture annuelle baisser en moyenne de 100 euros. Deuxième cas de figure, votre tarif est indexé sur les marchés de gros. Cela concerne 10 millions de ménages. Il ne s'agit donc pas de ceux qui sont au tarif régulé. Eh bien, à l'inverse, leurs factures risquent d'augmenter à cause des taxes sur l'électricité. Elles reviennent à leur niveau d'avant-crise. C'est la fin du bouclier tarifaire. De plus, les tarifs de réseau grimpent de 10%. Certains fournisseurs d'énergie vont répercuter ces hausses de taxes. D'autres non, ou seulement en partie. Ils vont s'ajuster dans les jours qui viennent et préviendront leurs clients. À vous de voir si votre tarif reste attractif. Si ce n'est plus le cas, vous pouvez en changer gratuitement. C'est donc le moment de regarder votre contrat et de comparer les offres sur le site du médiateur de l'énergie.
J'y cours. Merci Delphine. Éric Dupond-Moretti, condamné pour faute au moment où il était ministre de la Justice. Il avait ouvert des enquêtes administratives contre 3 magistrats du parquet national financier avec qui il avait eu des différends à l'époque où il était avocat. Il avait été relaxé par la Cour de justice de la République dans cette affaire. Cette fois, il est condamné par le tribunal administratif de Paris à indemniser 2 de ces 3 personnes. Après une énergie propre, on en parlait à l'instant, une eau polluée, celle du robinet, avait, après les pesticides et autres PFAS, voici le CVM, une substance présente dans les canalisations d'eau en plastique. Difficile décidément d'échapper dans notre pays à la pollution de l'eau du robinet. C'est une information de nos confrères de France Culture et du journal Le Monde. 140 000 km de canalisation installées dans les années 70 seraient concernées. À Châtenois, dans le Loiret, une famille a décidé de porter plainte. Elle a déposé un recours ce matin, Sandy Dauphin, recours pour faire reconnaître les négligences fautive de l'État.
Oui, en juillet 2023, comme tous les habitants du village, Nicolas U reçoit un courrier officiel. Il faut arrêter de boire l'eau du robinet, elle est contaminée. Les vieilles canalisations en PVC relâchent une substance classée cancérogène, le CVM, le chlorure de vinyle monomère. Depuis, ce père d'une petite fille de 4 ans ne décolère pas.
On est censé boire l'eau du robinet en toute confiance et on vous annonce que l'eau, elle est pas potable et il faut surtout pas la boire, qu'il y a des risques en la consommant. C'est gentil de nous prévenir. Sauf que le problème, c'est que il s'avère que ça fait des années qu'ils le savaient et qu'ils font rien, quoi. Ça m'indigne, quoi, complètement.
Cet habitant a saisi la justice. La situation à Châtenois n'est que la partie émergée de l'iceberg, selon son avocate, maître Gabriel Gien.
Dès 1998, il y a une directive européenne qui fixe un seuil à ne pas dépasser de CVM dans l'eau et qui impose aux États membres de réaliser des contrôles. Or, ce qu'on constate, c'est que les premiers contrôles organisés par le ministère de la Santé en France ne débutent qu'à partir de l'année 2012. Et à ce jour, ces contrôles ne sont toujours pas achevés. Il y a une vision que très partielle de la problématique, si bien que des centaines de milliers d'usagers de l'eau en France ne sont pas encore informés que leur eau n'est pas potable et qu'il y a un risque pour leur santé.
Jusqu'à 600 000 habitants sont alimentés en eau par de vieilles conduites susceptibles de le relarguer du CVM, d'après l'une des rares estimations, celle de l'Institut de veille sanitaire, mais elle remonte à 2010.
Sandy Dauphin, les bus de nouveau en circulation à Rennes. Ce matin, le réseau avait été victime d'une panne informatique. Les bus privés de radio ne pouvaient pas circuler au nom de la sécurité des voyageurs. La grippe encombre les passages aux urgences. L'épidémie est sévère cette année, les décès augmentent et la population n'est pas pas assez vaccinés. Alors à Nancy, la métropole a ouvert en début de semaine un centre de vaccination gratuit et sans rendez-vous pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles. Célestin Navarro s'y est rendu.
Du gel hydroalcoolique, des infirmiers masqués et des piqûres sous des barnums.
Dans le bras droit, si je suis gauchère.
Ça rappelle le Covid, sauf qu'ici c'est pour la grippe et ce n'est que pour les plus de 65 ans et les personnes à risque.
Alors on étudie chaque personne, chaque arrivée au cas par cas.
Nathalie Viard, elle coordonne le centre de vaccination.
En dessous de 65 ans, on étudie donc s'il y a des facteurs de risque particuliers, si la personne a perdu la feuille qu'elle a reçue de la CPAM. Elle nous explique qu'elle a des antécédents cardiaques ou une ALD, une affection longue durée, bien sûr, on va la vacciner.
Et c'est le cas de Delphine, 54 ans, venue pendant sa pause déjeuner.
Alors, asseyez-vous. C'est ma pharmacie qui m'a dit qu'elle allait avoir un centre ici à Gentilly.
D'accord. Et là, vous avez reçu ça de la CPAM parce que oui. Vous êtes en affection longue durée. Ça, vous êtes une personne à risque même si vous n'avez pas l'âge. Ok, très bien. Donc, vous rentrez dans nos critères de personnes que l'on va vacciner.
Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vous faire vacciner?
C'est le fait qu'on entend quand même pas mal dire que la grippe cette année est assez virulente. Je suis venue ici parce qu'en fait, il n'y avait plus de doses dans ma pharmacie et c'est ma pharmacienne qui m'a conseillé de venir ici sur Gentilly pour avoir le vaccin.
Une prise de température et une piqûre, ça prend 10 minutes. Le centre de vaccination est ouvert tous les jours jusqu'à dimanche, 14h.
Un reportage de Célestin Navarro d'ici Sud-Lorraine. De son côté, le syndicat de généralistes MG France réclame l'autorisation pour les médecins de stocker les vaccins contre la grippe. 68 millions de Français en 2024, mais combien demain et quel est leur profil? Le recensement 2025 démarre aujourd'hui. Chaque année, une commune sur cinq est concernée. Jusqu'au 15 février, vous ferez peut-être partie de ces 9 millions de Français qui vont répondre à un formulaire d'une vingtaine de questions. Il y a des nouveautés cette année avec des questions sur le télétravail, le handicap et sur la question sensible du lieu de naissance des parents. Et sur cette dernière, 5 syndicats et associations appellent à ne pas y répondre, Caroline Félix.
Avec ces données à très grande échelle sur les origines, Jean-Robert Susser de la Ligue des droits de l'homme redoute une stigmatisation de la part de l'extrême droite.
Voilà, il y a des municipalités plutôt effectivement de cette tendance-là qui ont exprimé de diverses façons le fait qu'ils voulaient avoir des chiffres pour savoir combien, par exemple, de gens ont une origine étrangère dans leur parc de logement social.
Et d'après lui, cette nouvelle question sur l'origine géographique des parents est inutile pour les politiques publiques.
Quelle mère vous aurait dit qu'il a besoin de savoir la réponse à cette question pour mener une politique locale qui l'aide à lutter contre les discriminations? Vous n'en trouverez pas.
L'INSEE répond que ces nouvelles questions sont le fruit d'une concertation avec des associations, des chercheurs, des syndicats qui demandaient ces données. Christelle Collin, directrice des statistiques démographiques et sociales de l'INSEE.
La nouvelle question sur le lieu de naissance des parents va permettre d'étudier si les personnes dont les parents sont nés à l'étranger sont désavantagées, par exemple sur le marché du travail au niveau local.
Même si par souci de protection des données, ces nouvelles informations resteront grossières, il ne sera pas possible de connaître les pays d'origine des habitants à l'échelle d'un quartier. Ce sera possible seulement au minimum à l'échelle d'une ville.
Enfin, quand Jeff Bezos reçoit les félicitations de son concurrent Elon Musk, sa fusée New Glenn et ses 98 mètres de haut a décollé de Cap Canaveral et signé son premier vol en orbite. C'est un tournant pour l'industrie spatiale privée, bien plus puissante que SpaceX. Elle entre sur le marché des lanceurs de satellites commerciaux et militaires et elle s'aligne aussi sur une mission non habitée vers Mars. Allez, pour l'instant, on reste sur Terre. On repart à la chapelle Saint-Mémin, près d'Orléans, à l'usine Duralex où vous vous trouvez. Jérôme Cadet.
Exactement au milieu des verres qui sortent de production. On va vous expliquer cette chaîne de production et comment Duralex a réussi à se sauver il y a quelques mois. Tout de suite.
Enfin, au livre de poche, Le Grand Feu, le nouveau roman de Léonore de Récondo. Le grand feu de l'amour qui foudroie Hilaria, jeune violoniste prodige. Celui de la musique qui l'anime. Le grand feu qui brûle au cœur de la Venise baroque de Vivaldi. Le Grand Feu de Léonore de Récondo, un roman d'une intensité flamboyante, au livre de poche.
France Bleu change de nom et devient Ici. Ici, c'est la radio qui parle d'ici, de notre quotidien, de tout ce qui se passe là où nous vivons, dans notre région, notre ville ou encore notre village. Parce que vivre au même endroit est aussi important que vivre au même moment. Ici, c'est aussi à la télévision et sur le web. Ici, le média qui vit comme nous. Ici.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants.
Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Retour du soleil sur l'Est.
Oui, la masse d'air a tendance à s'assécher par l'Est et le soleil a d'ailleurs déjà gagné la Franche-Comté et va se propager cet après-midi sur le Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Alors quelques plaques de nuages bas pourront tout de même rester tenaces en plaine d'Alsace et entre le Val-de-Saône et le Dauphiné, voire dans certaines vallées auvergnates. L'après-midi sera aussi ensoleillé sur l'ouest de la Bretagne ainsi que sur la Provence et entre les Charentes, la Gironde et le Languedoc. En revanche, les grisailles vont rester persistantes au sud de la Garonne, des Hauts-de-France à la Normandie et au bassin parisien, jusqu'au centre-Val de Loire, au Pays de la Loire et au Poitou. Des éclaircies arriveront tout de même à résister sur le Pas-de-Calais et le Cotentin. Et puis les conditions sont plus instables sur le Roussillon, la Corse et les Alpes du Sud, avec des averses qui seront neigeuses en moyenne montagne. Sous les grisailles tenaces, les maximales baissent d'un cran par rapport à hier, alors qu'elles sont en légère hausse sous le soleil du nord-est. Pour cet après-midi, les températures seront généralement comprises entre 3 degrés à Nantes, Lyon et à Orléans, jusqu'à 15 degrés du côté de Nice, avec 6 degrés pour Biarritz, Paris, Bordeaux ou encore pour Strasbourg.
Merci Sébastien Léas. Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Le 13-14 est donc aujourd'hui sur le terrain, comme nous le faisons régulièrement pour aller au plus près de vos préoccupations. Nous sommes à la chapelle Saint-Mémin, tout près d'Orléans, département du Loiret, dans une usine, hein, vous l'entendez, qui est devenue emblématique depuis quelques mois du combat que mène l'industrie française pour exister. La moitié de notre outil industriel a été détruit depuis les années 80. Ça représente 2 200 000 emplois et c'est ce qui a failli arriver ici. Et c'est ce que vous avez refusé, François Marciano. Bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Merci d'être avec nous, merci de nous accueillir ici. Vous êtes le directeur général de la SCOP Duralex, société coopérative et participative qui possède aujourd'hui cette usine. Où est-ce que nous sommes, François Marciano ?
Alors nous sommes en bout de ligne, nous sommes au bout de la ligne 13 qui est en train de fabriquer des verres Lola.
Tout à l'heure, nous étions tout près des moules.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe lorsque ces verres ils sortent à 700 degrés ? Après, il faut les refroidir. C'est ça la clé de vos verres ?
C'est ça. Vous êtes chez le spécialiste du verre trempé, hein, Duralex. Les équipes travaillent tous les jours pour faire un verre de qualité brillant et hyper solide. C'est la spécialité de Duralex, le verre trempé.
Un peu plus de 220 salariés ici. Plusieurs sont autour de nous. Là, les verres arrivent. On les entend en bout de chaîne. Hop, j'en prends un dans la chaîne. J'ai 18 ans.
Ah, c'est bien. Bah,
François Marciano, vous m'avez rajeuni. Ce sont les verres que beaucoup de Français connaissent depuis leur plus jeune âge. Vous continuez de vendre dans les cantines ?
Alors, bien sûr, c'était compliqué de vendre dans les cantines. Mais depuis que les salariés ont repris, vous avez les maires qui essaient de trouver toutes les solutions pour acheter des verres Duralex.
Tout a failli disparaître en avril 2024. Le groupe Pyrex, propriétaire de Duralex, mène l'usine au redressement judiciaire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là ?
Je me suis dit comment on va sauver cette entreprise, comment avec les salariés on peut faire, alors que cette entreprise a une seule et unique maladie, ne pas vendre ses verres.
On a beaucoup parlé du prix de l'énergie au moment de la guerre en Ukraine. Avec le four, j'étais tout près du four tout à l'heure. Il faut toujours qu'il soit allumé, ce four. Mais ce n'est pas le prix de l'énergie, au fond, votre principal
problème. Alors, le prix de l'énergie reste compliqué pour des entreprises verrières, hein, ça c'est clair. Et on y travaille tout le temps, au jour le jour, pour faire des économies et travailler le prix. Mais la maladie, la vraie maladie de Duralex, elle est simple. Il a fallu embaucher un directeur commercial, Vincent Valin, que vous écouterez tout à l'heure. Et Vincent a recruté un moteur pour la fusée Duralex, c'est-à-dire une équipe marketing et une équipe commerciale qui commence à travailler depuis le 6 janvier sur tous les pays du monde.
Un changement notable, c'est la présence d'une boutique dans le centre-ville d'Orléans. Il n'y avait pas de boutique ni ici ni à Orléans dédiée. On y sera tout à l'heure avec Maxime Deps. Est-ce que ça va mieux, François Marciano, aujourd'hui ?
Alors, effectivement, je ne vais pas dire que ça va mieux. On est exactement dans la feuille de route qu'on avait présentée au tribunal. On suit cette feuille de route, ça reste très compliqué. Hein. Je dis toujours, si on avait un peu d'aide, ça nous aiderait, hein, surtout de l'aide financière. Mais les Français répondent au www.duralex.com et donc ça nous fait énormément de bien.
Vous avez une seule ligne de production aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on tourne qu'à une ligne de production parce qu'on a du stock et on veut d'abord liquider le stock avant de mettre une deuxième ligne.
On va parler tout cela de la commercialisation de la SCOP de vos projets, de l'industrie française aussi, a-t-elle un avenir? C'est aussi la question que pose le cas d'Uralex. On va monter à l'étage ensemble, François Marciano, retrouver nos invités qui nous attendent. D'abord, je voudrais qu'on sorte d'ici, qu'on sorte de l'usine pour aller rencontrer deux des salariés de Duralex, David et Maria. Ils ont la quarantaine, ils ont vécu des heures difficiles ces derniers mois. Je suis allé les rencontrer hier soir chez eux, ici à la chapelle Saint-Mémin, accompagné par notre technicien Lucien Lefebvre.
33, c'est celle-là.
Bonsoir. Vous êtes David ?
C'est tout à fait.
Merci de nous recevoir. On peut s'installer, oui, bah oui. Pour être plus proches les uns des autres.
Oui. Vous voulez un café ?
Je viens de boire un café. Merci beaucoup.
Ça va, merci aussi, c'est gentil.
Dans les débuts, il y avait quand même une grosse crainte, parce que c'est vrai que même au niveau du tribunal, même eux ont dit que ça faisait quand même plusieurs redressements qu'ils nous aidaient, etc. Et que voilà, il fallait trouver quelque chose pour vraiment s'en sortir, ou alors c'était fini, quoi.
Parce qu'avant, quoi, 3 semaines avant, on avait fait une réunion avec le patron qui était là, et tout allait bien. J'étais choquée. On s'est dit, ben non, c'est pas vrai, quoi. On nous a menti, oui, peut-être. On nous a caché des choses. À partir du moment que je vois que les politiciens, ils étaient avec nous, ben, j'ai cru encore plus.
Ça a changé un peu votre regard vis-à-vis des hommes ou des femmes politiques ?
Oui, un peu, oui.
Ouais ?
Oui, aussi. Forcément.
Ça vous a redonné un peu confiance ?
Voilà. C'est ça. Parce que des fois, on se dit, les politiciens, bon, ils sont là quand ils ont besoin. Mais là, c'était nous qui avions besoin. Ils étaient là quand même.
Est-ce que l'ambiance a changé, l'ambiance de travail ?
C'est surtout qu'on peut prendre part à certaines décisions. Les fonds restent dans l'entreprise et s'en vont pas à droite, à gauche, dans différentes poches qui sont là juste pour du bénéfice.
Est-ce que vous faites davantage attention maintenant, Maria, à la vie de l'entreprise, maintenant que vous faites partie de la SCOP ? Est-ce que vous vous dites, tiens, ben ça, on pourrait faire différemment ?
Oui, la façon de voir, faire plus attention à certaines choses, oui. Comme une lumière qui est allumée, on fait plus attention, forcément. C'est comme si c'était un peu notre maison.
Je suis plutôt optimiste dans le sens où je me dis que même avec les différents redressements qu'on a eus, on arrivait quand même à faire un chiffre d'affaires. Les fonds étaient mal gérés, mais on arrivait à le faire. Donc, il n'y a pas de raison que, en le gérant nous, enfin entre guillemets nous-mêmes, on n'y arrive pas de la même façon.
Est-ce qu'un couple Duralex a une vaisselle et des verres Duralex ? Est-ce que c'est obligatoire ?
Obligatoire, non, mais...
Donc si j'ouvre les placards, mais
il y aura
Duralex.
Il y aura du Duralex.
Il y a des assiettes. Oui, on a tout Duralex.
Après, c'est pas parce qu'on travaille dans l'entreprise qu'on est saoulé de la vaisselle. Mais il y a quand même de bons produits. Et, on
pas
en profite aussi.
Pas incassable, mais très résistant.
Voilà, pas incassable, mais très résistant, nous dit Maria. C'est important de le préciser, ouais, François Marciano.
C'est hyper important. Hein.
Les verres, on est monté d'un étage depuis tout à l'heure. Nous étions en dessous, en bout de ligne de production. Et là, ces verres empaquetés, ils sortent juste à côté de nous. Où est-ce qu'on se trouve maintenant ?
Oui, là, on est sur la ligne et on a une seule ligne automatique qui emballe les master cartons pour être palettisé automatiquement. Ce qu'on appelle, nous, la recette.
Donc, tout cela a failli disparaître au mois d'avril, on l'a dit, au moment où le redressement judiciaire a été prononcé. Vous êtes tourné vers les élus,
oui,
notamment, qui vous ont soutenu. Valérie Bartcheneau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maire de la chapelle Saint-Mémin. Serge Grois avec nous également, bonjour. Maire Les Républicains d'Orléans, président de la métropole d'Orléans. Comment avez-vous réagi, Serge Grouard, lorsque François Marciano est venu vous voir en vous disant, voilà, on a le sentiment que là, tout va disparaître.
Bah, le soutien total, tout de suite. J'allais dire presque sans réfléchir, parce que moi, je connais Duralex depuis 20 ans et plus. Donc, je sais que cette boîte, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir tourner. Donc, on a dit banco et on s'est tous mis ensemble pour sauver Duralex.
Quelle garantie est-ce que vous avez demandé ? Il y a de l'argent public que vous avez investi. À quelle hauteur, d'ailleurs ?
Alors, la métropole d'Orléans investit pratiquement 6 millions d'euros par le rachat du foncier de Duralex. Donc c'est un soutien déterminant, bien sûr. Mais ce que l'on a fait, c'est la...
Ça veut dire que ce bâtiment, pardonnez-moi, le bâtiment, le terrain va appartenir à la collectivité.
Oui, et bien sûr qu'on le laisse à Duralex, évidemment. Mais ça permet d'apporter du cash. C'est par ce biais-là que l'on a pu aider l'entreprise. Et c'est une somme, évidemment, très conséquente.
Comment est-ce que vous avez réagi, Valérie Barcheno, en apprenant les nouvelles difficultés? C'était pas le premier redressement judiciaire, c'est vrai.
Oui, effectivement, depuis de nombreuses années, Duralex connaît des difficultés. Ça a été un choc, puisqu'on pensait quand même que le dernier repreneur Pyrex pérenniserait l'entreprise. Ça a été un choc, mais du coup, cette reprise en scope pour une maire comme moi d'une ville de la Chapelle Saint-Mémin, c'est un grand soulagement, puisque le projet SCOP, c'était le seul à proposer la reprise de tous les emplois. Et pour une ville comme la nôtre, c'était très, très important.
Alors, le SCOP, le mot est lâché. François Marciano, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette SCOP?
Alors, cette SCOP, c'est exactement comme une entreprise classique. Hein. Vous avez des actionnaires, nous, on a des associés. En dessous, vous avez, dans une SA classique, ce qu'on appelle un board. Nous, on a un conseil de surveillance. Et en dessous, vous avez le directeur général.
Et donc, les ouvriers votent? Comment ça se passe?
Ils participent à l'Assemblée générale à voter tous les budgets et à voter les grandes décisions.
Alors, la région aussi est intervenue. La région,
oui, François Bonneau,
Centre-Val de Loire, un prêt d'1 million d'euros, a activé également le fonds de garantie pour couvrir les prêts bancaires, a doublé aussi le capital ici de l'entreprise devenue SCOP. On a entendu le témoignage de Maria nous dire, Serge Grouard, au fond, ça me redonne quand même aussi confiance dans les élus. Je croyais pas forcément beaucoup à la politique, mais ça me redonne confiance.
Ben vous savez, nous ici, on n'est pas en train de se chipoter en permanence. On est en train de travailler pour l'intérêt général. Et j'ajoute, et c'est fondamental, tous ensemble. Vous avez cité le président de la région Centre-Val de Loire. Vous avez cité les maires. Vous m'avez cité. Nous ne sommes pas forcément des mêmes sensibilités politiques. Mais on voit l'intérêt général et on bosse pour ça. Et c'est une des raisons qui a fait que l'on a pu sauver l'entreprise Duralex. Je veux dire qu'il y a une deuxième raison, c'est qu'on a été dans le détail du dossier avec François Marciano, avec les salariés, pour voir quel était le vrai problème de Duralex. On l'a bien identifié, le vrai problème, ce n'était pas ce que l'on disait à l'époque. Et puis ensuite, le troisième facteur, c'est le collectif.
C'est-à-dire le vrai problème, Serge?
Le vrai problème, c'est ce qui a été dit, ce n'est pas le problème de la capacité de production qu'il faudrait éventuellement réduire, c'est la capacité de réunir une équipe très solide dans le commerce et le marketing pour avoir une sorte de force de frappe commerciale et marketing. C'est ce que Vincent Vallin, François Marciano et toute l'équipe sont en train de constituer actuellement, et c'est pour ça que ça va réussir. Et ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation. C'est ça, c'est moi le message que je voudrais faire passer.
On va en parler dans quelques minutes, parce qu'on produit ici des verres. Il y a l'aéronautique aussi qui est très présent. On en parlera aussi de ce tissu industriel. D'un mot, Valérie Barcheno, vous pouviez concevoir la Chapelle Saint-Mémin sans Duralex?
Non. Alors Duralex, c'est le début de la verrerie il y a 100 ans. Cette année, on va fêter les 80 ans de Duralex. Donc il y a un lien historique entre notre ville et l'entreprise. Il y a sur les 230 salariés, une quarantaine de salariés qui travaillent ici, qui sont chapeloises ou chapelois. Donc c'est des gens, c'est des familles. C'était très très important que l'entreprise reste et vive à la Chapelle.
Et puisse poursuivre. Ahmed Teristi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici responsable à l'atelier Moulerie.
Oui.
Vous habitez à la Chapelle Saint-Mémin?
Oui. Donc 32
vous faites,
ans.
Voilà, donc vous faites partie des
32 ans.
Des salariés qui...
32 ans que je suis chez... J'attaque ma 32e chez Duralex.
Un historique de Duralex.
Une grande histoire. Hein.
Ça va mieux, Ahmed Teristi?
Bah, on va faire que...
L'air
ça va mieux. Et ça... Ah oui, là, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Et on va faire en sorte que ça aille mieux, et beaucoup mieux.
Ce projet de SCOP a été rejoint par une partie des salariés. Vous avez dit, j'ai pas envie d'intégrer la SCOP.
Non, pas envie. Évidemment. Non, c'est pas l'envie, c'est une réflexion.
Réflexion. Quelle a été votre réflexion?
Ouais, je me pose plein de questions, c'est tout nouveau pour moi. Voilà, c'est. Et puis on va concrétiser ça, je pense, et puis on va voir la suite, quoi.
Quelles ont été vos interrogations financières?
Ouais, financières, voilà, c'est être patron, c'est limite être patron, c'est être responsable d'une entreprise, c'est tout nouveau. puis on se pose des questions, quoi. On veut voir la suite, mais confiant, on reste confiant.
500 euros par mois aussi pour devenir membre de la SCOP, c'est
non,
une somme
500 euros, non, c'est 500 euros.
Par mois, pardonnez-moi, 500 euros au total.
Ouais, au total.
Au total, ok, c'est une somme. Après,
c'est une
quand
somme,
même.
Ouais, voilà. Ouais. C'est un budget, hein. C'est un budget aujourd'hui. La vie, elle est un peu chère, quoi, quand même. On va dire, elle est chère, mais on va y arriver. On se bat pour que Duralex perdure. Et l'aglo nous a bien aidé avec le magasin. Et c'était magnifique, quoi. C'est une bonne expérience.
Le magasin qui vient d'ouvrir aussi à Orléans, qui a ouvert avant les fêtes. On y sera dans une minute avec Maxime Debs. Merci Ahmed Teristi.
Je vous en prie.
De nous accueillir aussi ici. On est accueillis de manière extrêmement chaleureuse depuis qu'on est arrivé hier. Vous pouvez passer le micro à Maxime Debs, qui est juste à côté de vous. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Je vous salue. Alors ça fait plusieurs jours que vous vadrouillez ici autour d'Orléans. On sera dans le magasin avec vous dans quelques minutes, ce magasin Duralex. Je voudrais qu'on s'intéresse au cœur de l'usine, c'est ce four auprès duquel j'étais tout à l'heure à 13h pour l'ouverture de ce 13-14. Maxime Debs, ce four, c'est la pièce centrale au cœur de la stratégie Duralex.
Ouais, difficile de faire abstraction, de ne pas le voir, hein, ce four, un mastoc au cœur de l'usine, un 55 mètres carrés qui reste allumé en permanence, de jour comme de nuit, comme nous l'explique Nicolas Rouffet, le directeur industriel du site.
On ne peut pas faire on-off tous les jours. Par exemple, on va arriver le matin, le démarrer le matin, et comme un four qu'on a à la maison. Là, c'est un four, on met 2 à 3 semaines à le mettre en température. Et si on voulait l'éteindre, on mettrait pareil. Et donc ça se fait pas comme ça. C'est donc au bout d'un moment, on aurait un risque de casse. Donc en fait, on évite au maximum de le faire.
Or, ce four est très énergivore. Il faut donc composer avec, apprendre à le maîtriser, le dompter. Si on ne peut l'éteindre, au moins, peut-on agir sur ce qu'il consomme comme énergie, jouer sur les intensités de chaleur. Mais tout ça en faisant très, très attention.
Donc, comment on fait? On y va, j'ai envie de dire, piano, piano. Si vous fondez pas bien votre verre, si vous allez trop vite, si vous mettez pas suffisamment d'énergie ou des choses comme ça, vous pouvez avoir des bulles en sortie ou des infondus, des petits cailloux.
Travail de précision donc, qui est la fabrique du verre. C'est au prix de réglage au cordeau, hein, méticuleux en décembre, que les équipes ont réussi à réduire le coût énergétique de 15 000 euros par mois. Elles auraient presque pu aller plus loin, mais très vite, là aussi, un plafond de verre a été atteint.
Parce qu'en fait, on a baissé le gaz. Mais pour compenser quand même, on a monté un peu l'électricité en sol pour continuer à avoir un verre de bonne qualité. Le juge de paix à la fin, c'est la qualité du verre. Ok pour faire des économies, ok pour émettre moins de CO2, donc on doit y aller. Par contre, il est hors de question de toucher à ce pourquoi le verre Duralex est connu, donc sa résistance mécanique et sa brillance.
Duralex qui avait pu se laisser surprendre comme d'autres par la guerre en Ukraine en 2022 où le cours du gaz à l'époque avait flambé et qui semble aujourd'hui bien mieux paré.
Merci Maxime Debs. François Marciano, à quel niveau est-il impossible de produire, niveau des prix de l'énergie?
Alors effectivement, si les prix commençaient à doubler, on serait mort. Hein, il y a un moment, il y a une limite à tout. Aujourd'hui, le marché baisse. Hein, on a gagné quasiment 900 000 euros sur l'année en coût énergétique. Donc effectivement, on espère que les années suivantes vont continuer comme ça, quoi.
Donc vous surveillez le cours du gaz
au jour le jour,
en temps réel.
Au jour le jour.
On a parlé de ce modèle de SCOP. Le capital est forcément plus réduit que celui d'une très grande entreprise.
On est d'accord.
Ou des holdings qui vous possédaient précédemment. Comment pouvez-vous investir?
Alors aujourd'hui,
avec beaucoup moins de moyens financiers.
Alors, aujourd'hui, c'est bien compliqué, oui. Mais ce que j'ai dit au tribunal. Oui, c'était Noldin, milliardaire, hein, qui possédait Duralex. Vous avez vu les investissements?
Et vous non, c'est ça le problème.
C'est ça.
Donc c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le groupe Pyrex qui vous possédait précédemment.
C'était la Maison Française du Verre.
La Maison Française du Verre.
La Maison Française du Verre.
Ne mettez pas d'argent dans l'entreprise.
Alors c'est un choix autre et une autre politique, mais de toute façon, le problème n'est pas de l'ancienne. C'est nous, la SCOP, où est-ce qu'on veut aller? Hein, c'est ça en fait. Et nous, on essaie d'avoir des aides par l'État. Hein, aujourd'hui, on a eu des prêts. On a eu un prêt.
Mais ça, ça ne peut pas durer définitivement.
Non.
C'est ça. Ah bah, Il faut que vous fonctionnez sans aide.
Ah non, mais vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler juste après, qui s'appelle Vincent Valin, et qui va vous expliquer la stratégie commerciale.
Mais les investissements, c'est extrêmement important. Serge Grouard, est-ce que ce modèle de SCOP, il peut être dupliqué? Parce que, évidemment, une usine, lorsqu'elle doit faire face à la concurrence, une entreprise, lorsqu'elle doit se moderniser, il faut qu'elle ait de l'argent. Et ça ne peut pas être toujours de l'argent public.
Bien sûr que vous avez raison. Mais ce n'est pas tellement le cas.
J'ai dit l'investissement de la métropole qui est fort, la participation de la région, mais l'essentiel, c'est le chiffre d'affaires que va produire la SCOP. Et il y a un point mort, il faut que la SCOP atteigne le point mort et après, elle fera du bénéfice et le bénéfice pourra en partie être réinvesti sur les besoins de l'entreprise. Peu importe finalement, au fond, sa dénomination et peu importe sa manière juridique d'être gouvernée. La réalité, c'est qu'il faut qu'elle ait des clients, il faut qu'elle produise bien, qu'elle soit compétitive par rapport aux autres. Et elle l'est. Et elle va l'être de plus en plus. Parce qu'effectivement, il y a eu dans le passé des erreurs faites, il y a eu un sous-investissement. Aujourd'hui, il y a la bonne analyse. Et je voulais dire qu'il y a le collectif. Il y a public-privé, les acteurs privés, un certain nombre de banques, les acteurs publics, l'État. Voilà, on est tous ensemble et je pense que c'est ça le modèle pour réindustrialiser la France.
On va en reparler dans une minute. D'abord, je voudrais insister sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, François Marciano. La commercialisation, vendre et mieux vendre et mieux distribuer ses produits, ça c'est votre travail, Vincent Valin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur stratégie et développement de Duralex. Avant cela, on va aller en boutique avec vous, Maxime Debs. Maxime, vous êtes rendu dans ce magasin qui a ouvert peu avant les fêtes dans le centre-ville d'Orléans.
Ouais, et chez Duralex, on connaissait le bruit du verre. On s'est habitué depuis à celui-ci aussi.
Voici.
Bonne journée, merci.
Bonne journée, au revoir.
Avec 400 000 euros de chiffre d'affaires en seulement 3 semaines en décembre, Fabienne, qui tient la caisse du magasin, a connu un mois complètement fou.
Complètement. Ah oui, ça a été explosif quoi, au niveau des chiffres. On s'attendait à avoir du monde, mais pas à ce point-là. Quoi. C'est chouette.
Un samedi, durant les fêtes, jusqu'à 38 000 euros ont même été comptés en fin de journée. Il a fallu que le fils du patron, Antoine Marciano, en charge du volet financier, se pince.
On verra pas ça dans l'année, moi, je l'espère, hein, mais... Je pense pas.
Aujourd'hui, le rythme est un peu tombé, mais pas tant que ça, avec des ventes autour de 10 000 euros par jour. Pas un moment sans client dans ce magasin si attendu, ici notamment par Corinne et Christine.
Ça manquait.
Ça manquait.
Ouais, moi, je trouve que c'est très, très bien.
Non, c'est très bien.
Non, parce que pour nous, c'était de l'export, enfin de la vente un petit peu en plus en gros. Donc nous, on est venus découvrir un petit peu toutes les... Et puis on va repartir... avec quelque chose.
À se demander pourquoi ce magasin n'a pas été ouvert avant, il faut dire qu'un accord inespéré a été trouvé avec la métropole pour la mise à disposition de cette boutique à un loyer modéré. Luc Nantier, adjoint au commerce à la mairie.
Les Orléanais attendaient la présence de Duralex en centre-ville et puis ça contribue à animer le centre commercial des Halles Châtelet. Donc c'est un combo gagnant, comme on dit, tout le monde en profite.
Combo qui séduit et intrigue, y compris les gens de passage comme Philippe venu d'Auvergne, lui aussi reparti avec ses verres.
C'est du français, achetons français, c'est bien. Nous, à Clermont-Ferrand, on a une entreprise aussi comme ça, qui a été rachetée par les employés, et ça fait 10 ans et ça marche très bien. Et puis ça prouve que ça peut très bien marcher comme ça aussi, c'est super.
Duralex qui rêve aujourd'hui d'une boutique à Paris, et pourquoi pas dans d'autres villes de France.
Voilà, ça sont de nouveaux horizons, Maxime Debs, Vincent Valin, ça paraît incroyable. Il n'y avait pas de boutique Duralex ici, localement?
Non, c'est ça, en effet, il n'y avait pas de boutique Duralex. C'est très pertinent, c'était un peu le sens de l'histoire d'en avoir une. C'est fait grâce à la mairie d'Orléans et grâce à Serge Rouard et ses équipes.
Avec des salariés qui vendent aussi, c'est-à-dire que moi hier je suis allé voir la boutique, j'ai vu des ouvriers que j'ai recroisés ce matin sur le site. Bah, Ahmed Terissi qui était avec nous tout à l'heure, je crois, a vendu pendant la période des fêtes.
Oui, on touche quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'en fait c'est les salariés de Duralex qui sont cantonnés à leur job dans l'usine, qui aujourd'hui vont directement au contact des clients et des produits qu'ils fabriquent. Et ça, ça fait partie aussi d'une nouvelle dynamique qui est hyper importante pour nous.
Alors ça, c'est important, mais ça reste symbolique. C'est pas le point de vente d'Orléans qui va changer la phase de Duralex. Est-ce que vous avez pu, ces dernières semaines, ces derniers mois, avancer sur de nouveaux débouchés?
Oui, c'est ça. En fait, il faut juste peut-être rappeler que le projet de reprise de Duralex par la SCOP des salariés, c'est d'amener cette entreprise en 3 ans, et on a des financements pour 3 ans, à 35 millions. Voilà, 35 millions, c'est en fait 8 millions de plus qu'aujourd'hui.
35
millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. On a cette latitude grâce au financement qu'on a pu avoir, et vous en avez parlé. pour atteindre ce chiffre d'affaires de 35 millions. Alors, il y a plusieurs étapes à passer pour atteindre ces 35 millions. La première étape, c'est de refaire une stratégie de distribution et une nouvelle politique tarifaire. Il y a un gros sujet de repositionnement de la marque, des prix, des produits, évidemment, par zone. On divise le monde entier par 9 zones. Vous savez que Duralex...
C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est trop cher et des endroits où c'est
pas que c'est pas trop cher, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait en fait une appréhension du monde qui est en 9 zones et chaque zone a ses spécificités.
Jusqu'ici, c'était un peu uniforme. On travaillait pas précisément.
Oui, on peut dire que c'était. Oui, ouais, on peut dire d'accord. que c'était ça. Et donc, en fait, on a cette nécessité de remettre un peu tout ça à plat. Et puis surtout, après, il faut des bras pour ça. Il faut des hommes et des femmes. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a recruté là, en l'espace de 4 mois, 9 commerciaux, dont 5 dédié exclusivement à l'international et 4 responsables marketing qui vont nous aider à structurer ces offres.
L'international, c'est quel pourcentage des ventes ?
Aujourd'hui, c'est 65% de nos
65%
ventes.
65% de vos ventes. Donc, c'est extrêmement important. Pour attaquer ces marchés, est-ce qu'il faut des nouveaux produits ?
Alors, il ne faut pas spécialement de nouveaux produits aujourd'hui. La stratégie que l'on a par rapport à cet aspect de retournement de l'entreprise, c'est déjà de vendre ce qu'on a et de le vendre mieux. Donc, c'est d'où cet aspect positionnement, repositionnement. On a aujourd'hui typiquement deux jambes sur lesquelles s'appuyer. On a l'aspect Europe, il faut consolider l'Europe. En Europe, on s'est maintenu, donc il faut continuer à croître
vendre
plus en Europe. Et on a deux marchés très importants qui sont les marchés Asie et marchés nord-américains, où là, en l'espace de 2 ans, on a perdu plus de 2 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, vous voyez, il y a une nécessité de récupérer très vite ces 2 600 000 qui sont un bout. Bon, on est à 27 cette année pour atteindre les 31 qu'on s'est fixés en 2025. Donc on a déjà à les récupérer et rebrancher un peu, évidemment, reconnecter avec tous ces clients-là et ensuite consolider.
Proposer des plats, par exemple, pas uniquement des assiettes, des verres, d'autres produits ?
Alors, on va rester aujourd'hui sur quelque chose qui est verre vaisselle. Vous savez que cette année, c'est l'année des 80 ans.
La marque a été déposée en 1945.
Exactement, exactement. Et à cette occasion-là, on va évidemment provoquer un choc dans le positionnement de la marque en faisant notamment un concours de design pour dessiner la future collection de Rolex qu'on sortira en 2026.
Tous les auditeurs peuvent envoyer, tous les Français peuvent envoyer une proposition de dessin et de verre.
Bah, ce serait bien, oui.
ça va vous en faire beaucoup. Hein.
On va annoncer en avril la manière dont on va fonctionner, mais oui, ça va être très participatif.
L'enjeu donc de la commercialisation, on l'a compris avec vous, majeur Vincent Vallin. Et puis, je l'ai dit en ouverture de ce 13-14, et Serge Gouard, vous en avez dit un mot tout à l'heure, la question de ce qui se passe ici chez Duralex, elle pose aussi la question de l'industrie française. Je voudrais donner la parole à Lionel Clermont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Guinot Aéronautique. C'est une entreprise industrielle, 350 salariés dans l'aéronautique, 80 millions de chiffres d'affaires. Vous êtes à Saint-Cyr en Val-de-Loire. Saint-Cyr-en-Val.
C'est exact.
C'est ça. C'est dans ce département du Loiret. Vous pouvez nous expliquer quelle est votre activité ?
Alors nous concevons, fabriquons et distribuons dans le monde entier, environ 140 pays, des machines qui alimentent les avions en énergie électrique, en climatisation et qui effectuent le démarrage des moteurs lorsque l'avion est parqué en aéroport.
Ça permet de faire des économies d'énergie pour les compagnies aériennes qui utilisent des avions, c'est ça ?
Oui, alors il y a une alternative. Hein. L'avion peut être autonome en utilisant ses propres moteurs, voire certains moteurs auxiliaires. En utilisant les machines de substitution, on divise par 10 l'empreinte carbone, même si les machines sont diesel, et on va au-delà lorsqu'on est sur des technologies à batterie ou électriques.
Donc vous prouvez que l'industrie française peut être performante à l'export. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé ici chez votre voisin Duralex ? Est-ce que vous avez suivi tout cela avec attention ?
C'est difficile pour moi, je ne connais pas le dossier de façon très précise. Je trouve l'histoire belle. Monsieur Grouard a cité le mot collectif, et je pense que c'est le fondamental. Société Guinot s'est développée depuis 20 ans de façon permanente dans un marché qui est aussi mondialisé avec une concurrence aussi internationale et probablement que l'élément d'essence au-delà de la stratégie c'est le collectif. Donc le modèle qui est en train d'être bâti en tout cas peut donner confiance.
Quelle est la condition de la réussite de l'industrie française ? On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur la réindustrialisation du pays, sur la possibilité de regagner des emplois industriels avec une concurrence acharnée, asiatique, les droits de douane qui sont agités par Donald Trump qui prendra ses fonctions à la Maison-Blanche lundi. Quelle est la condition pour réussir ?
Aucune recette miracle. je vais vous dire des évidences. On est dans un monde qui change en permanence et qui va continuer à le faire. On a l'obligation de s'adapter. On sait que l'adaptation passe par l'innovation. Tout ça sont de vieilles recettes. Et je pense que ce sont les mêmes. Et puis on ajoute à cela, on a parlé de collectif, mais probablement de volonté. Volonté à tous les niveaux de la société. À tous les niveaux, je dis bien. Et on sait... Alors je prends beaucoup cet exemple. Quand on voit que quelqu'un à qui il manque un bras peut faire le tour du monde au Vendée Globe, on se dit que... la volonté, c'est quand même
Damien Seguin, même en l'occurrence,
un sacré vecteur. Donc il n'y a pas de recette miracle, tout est possible à partir du moment où on a ces éléments-là et on a envie de s'adapter et de réussir.
Est-ce que la concurrence aujourd'hui est supportable pour votre entreprise ?
Si on a décidé de ne pas la subir, elle est supportable.
Non, mais je veux dire, dans le contexte, le contexte français vous permet de faire face à la concurrence internationale ?
Moi, je suis un éternel optimiste. Je dis toujours que si la montagne à franchir, c'est l'Everest, regardons les choses étape par étape et peut-être un jour on y sera. Donc non, rien d'insurmontable. Chaque pays a ses difficultés, chaque entreprise traverse des périodes difficiles. Parfois il faut totalement changer de stratégie, parfois il faut faire marche arrière et faire volte-face, parfois il faut s'acharner et continuer, mais pour moi il n'y a aucune règle. Et la France est un magnifique pays.
François Marciano, est-ce que notamment la perspective de voir Donald Trump arriver à la Maison Blanche et de voir peut-être des droits de douane augmenter à travers le monde, est-ce que ça vous pose question? 65% du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, nous a rappelé Vincent Vallin, votre directeur stratégie et développement, il y a une minute.
Oui, alors effectivement, c'est toujours compliqué, mais tous les mois, il se passe quelque chose dans le monde. Tous les mois, on doit s'adapter. Hein, et comme vient de le dire mon collègue de l'aéronautique, on est, nous, en train de s'adapter en permanence. Et donc, avec la qualité française, on n'a pas trop peur de M. Trump.
Et avec les salaires aussi, avec des salaires corrects, le coût de la main-d'œuvre, est-ce que c'est un sujet ?
C'est un sujet, mais si vous payez correctement vos collègues, ils vous donnent le rendement qui va avec.
Donc il faut bien les payer. Et ça,
exactement.
Lionel Clermont, sur ce point, est-ce que le coût de la main-d'œuvre en France est un sujet ou pas ?
Je pense que je préfère me focaliser sur la question du talent que sur la question du coût. C'est un petit peu le même sujet que le coût de revient et le prix de vente. On peut chercher à serrer en permanence les coûts. On en a besoin, on est dans une guerre économique. Mais on peut aussi regarder comment vendre plus cher, vers à moitié plein ou vers à moitié vide. Donc le sujet du salaire, chaque pays... Ok, allons fabriquer en Inde, mais on aura d'autres difficultés à traiter.
Non, mais vous savez qu'on continue, on a été le pays industrialisé le plus délocalisé ces dernières années. Donc manifestement, certains groupes y ont trouvé un intérêt. Vous ne l'avez pas fait, mais d'autres l'ont fait.
Je pense que c'est possible. On était 35 personnes il y a un certain nombre d'années, on est 300 aujourd'hui. On a fait tout en croissance organique. Alors peut-être qu'on était sur un secteur privilégié, peut-être, mais je pense que possible, quoi.
François Marciano, on trouve des verres Duralex plagiés à travers le monde.
Oui, alors on a beaucoup de procès avec des amis asiatiques hein, en particulier, où on a des copies de partout de Duralex. Mais c'est plutôt de bon augure, parce que si on est copié, ça veut dire qu'on est bon.
Et que
donc, ça me gêne pas d'être copié. L'important, c'est de savoir que c'est un vrai Duralex et donc qu'il est 2,5 fois plus costaud qu'un verre classique. Hein.
En regardant votre gamme de verres, on a vu qu'il y avait des verres Paris 2024. Vous avez fait des verres Paris 2024 ces dernières semaines et ces derniers mois. François Marciano, je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles.
Alors, je vais laisser Vincent répondre, hein, parce que c'est lui le commerce.
Ils sont toujours disponibles sur notre site, bien sûr.
Voilà. Et ça nous a inspiré et on s'est dit qu'il y avait tout près d'ici, c'est une coutume, à la fin de ce 13-14, un clin d'œil à la région qui nous accueille, parce que vous savez que le BMX a été l'un des sports qui a marqué les Jeux Olympiques et marqué les Français avec ce triplé notamment. Et ici, le BMX est une institution à la Chapelle Saint-Mémin. Le Big Club de BMX vient d'inaugurer sa piste aux normes olympiques. C'était il y a quelques mois, équipement utilisé par 300 licenciés, mais aussi par les élèves du collège, car le BMX est ici au programme des cours d'EPS. Le président fondateur de ce club fait partie des pionniers qui a introduit ce sport en France en 1982, c'est Bernard Boutin.
J'étais motard, je faisais de la moto tout terrain, et sur un journal moto qui s'appelle Moto Verte, j'avais vu un article sur un sport qui était pratiqué par les jeunes aux États-Unis. Ça a accroché tout de suite. Au départ, on avait bien sûr 3-4 gamins, et puis aujourd'hui, on a 340 enfants qui sont licenciés aujourd'hui au club, c'est-à-dire on doit être le premier ou dans les premiers clubs de France de cyclisme, toutes disciplines confondues. Le BMX est l'activité phare, hein, puisqu'on participe à des compétitions nationales, internationales, etc. Donc effectivement, je pense que c'est une des vitrines de La Chapelle, et je pense que c'est une belle vitrine. Alors actuellement, on a une pépite qui s'appelle Clément Rocherieux, champion d'Europe l'an dernier, qui cette année est vice-champion d'Europe, qui a 17 ans. Donc vous avez vu, le champion olympique, il a 33 ans cette année. Hein. Donc ça veut dire qu'il a de belles années devant lui, et on espère qu'il pourrait faire partie d'un futur triplé.
Voilà, le club de BMX de La Chapelle-Saint-Mémin, l'un des meilleurs clubs de France. On ne pouvait pas quitter la commune avant ce clin d'œil. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui en direct de cette usine Duralex. Merci François Marciano de nous avoir accueillis, ouvert les portes. Merci,
merci à vous.
À tous les salariés qui nous ont accueillis, à Freddy ce matin qui nous a fait faire la visite, à Lucien Lefebvre et Martin Troadec pour les moyens techniques, notre chargé de production Benjamin Chauvin, Cécilia Arbonna à la rédaction en chef, et Claire-Sophie Collet, notre chargée de programme. Bonjour à vous Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Le programme de la Terre au carré aujourd'hui.
Eh bien, nous allons parler aujourd'hui des phénomènes les plus violents de l'univers.
À tout de suite.